France Culture, il est 16h. Tout de suite, Révolution médicale, René Friedman.
Révolution médicale. Une émission de René Friedman. Aujourd'hui, dans le cadre de France Culture, la semaine de la relève des savoirs, nous allons étudier, bien sûr, de la médecine, mais surtout de la recherche médicale, celle qui va nous permettre demain d'évoluer, d'avancer, de découvrir. Et pour cela, j'ai demandé à deux chercheurs de venir ici, sur France Culture. Tout d'abord,
Sigolène Meillac.
Et puis,
Xavier Judrol.
Voilà, tous les trois, on va essayer de dépiauter un peu les nouveautés de ce qui est déjà pour eux aujourd'hui, mais pour nous, praticiens, je dirais, demain. Peut-être, en tous les cas, si tout va bien. Ségolène Meillac, vous êtes chercheuse, comme je l'ai dit, à l'INSERM, au laboratoire de morphogénèse du cœur, donc vous êtes une femme de cœur, à l'Institut Pasteur et à Imagine. Et d'ailleurs, ce sera très intéressant de que vous nous parliez tout à l'heure du lien clinique et recherche qui était un peu le projet d'ailleurs d'Imagine. Vous êtes normalienne, vous avez fait une thèse à l'Institut Pasteur avec Margaret Buckingham et puis vous avez continué à Cambridge. Donc je suppose que vous avez un anglais impeccable et que vous vous occupez donc de cette recherche, de la formation du cœur, mais aussi vous faites des choses qui sont intéressantes et vous faites un atelier scientifique pour les jeunes enfants pour essayer de diffuser votre savoir, où est-ce que vous en êtes. Tout ce que j'ai dit est juste ?
Tout ce que vous avez dit est juste. Je considère que le rôle du chercheur n'est pas seulement d'acquérir une expertise, mais aussi de transmettre cette expertise qui peut être dans des domaines spécialisés comme les formations universitaires. Mais je crois qu'on peut aussi transmettre un esprit scientifique et notamment la curiosité qui anime les chercheurs et la logique qui leur permet d'analyser les observations et que ces deux caractéristiques, on les trouve très naturellement chez les enfants. Et donc c'est ça qui m'intéresse dans les ateliers avec les enfants, c'est d'essayer de les aider à cultiver cette curiosité, cette logique pour qu'ils la conservent toute leur vie et en leur proposant des sujets scientifiques auxquels ils s'intéressent naturellement.
Alors écoutez, dans la culture scientifique à France Culture, vous êtes pile poil dedans parce que c'est exactement ce qu'on cherche à faire. Donc avec vous, je suis content que vous soyez là, mais aussi avec Xavier Judrol, donc qui est directeur du laboratoire Biomix. Et on va parler un peu de ce que c'est que les omics qui sont un peu partout. Vous êtes au CEA de Grenoble, au sein de l'unité de recherche 1038. Et vous avez organisé les ateliers de réflexion sur le 3D, la culture cellulaire, la culture du tissu vivant. Enfin, vous êtes en plein dans cette nouvelle façon de cultiver les cellules et donc d'apprendre des choses sur la physiologie, sur la médecine. Et vous cherchez aussi sans doute à avoir de nouveaux outils pour optimiser l'arrivée de nouveaux médicaments. Bien entendu, vous êtes invité à de nombreux congrès. Vous avez d'ailleurs même le mois de mai, je ne sais pas comment on a fait pour vous choper, parce que entre Cambridge, entre Berlin, entre Boston, vous voilà porte-parole de votre équipe très brillante, donc qui travaille sur ces nouveaux modèles. Alors une question, qu'est-ce que c'est que les modèles bio-inspirés ? Pourquoi cette appellation et qu'est-ce que c'est ?
Eh bien, quand on travaille sur l'humain, depuis quelques années, on essaye de travailler sur les cellules de l'humain comme modèle pour comprendre le vivant et pour éventuellement trouver de nouveaux médicaments, comprendre les pathologies, comprendre le fonctionnement normal de la cellule aussi. Et donc, depuis les années 30 à peu près, les chercheurs utilisent des cellules humaines en culture comme modèle. Les premières cellules, d'ailleurs, viennent d'une femme qui s'appelait Henrietta Lacks, une femme américaine qui est décédée d'un cancer du col de l'utérus. Et donc, ces cellules poussent toujours. C'est assez remarquable, d'ailleurs, de penser qu'elle est...
Des dizaines d'années plus tard, nous avons toujours des cellules qui sont de ce cancer, de cette
voilà,
pauvre dame.
Elle est un peu immortalisée. Comme
elle est immortalisée, oui, d'ailleurs.
C'est... Et depuis, on a dû fabriquer quelques millions d'Henrietta Lacks en nombre de cellules. Mais ces modèles-là, malgré tout, s'ils ont été utiles et fort utiles pour découvrir de nombreux aspects, notamment en oncologie, ont des limitations parce qu'ils poussent, ces cellules poussent sur du plastique. On n'a pas trop de plastique dans nos corps. Elles poussent en deux dimensions uniquement, et puis avec beaucoup de facteurs exogènes, notamment du sérum de veau fœtal, qu'on ne trouve pas trop non plus.
Pour les faire pousser, on donne des adjuvants. Voilà. Donc on est dans des petites boîtes transparentes, posées sur un laboratoire, en lame, oui. Hein, en étalement, et avec effectivement, comme vous le dites, des adjuvants.
Voilà, des facteurs de croissance qui leur permettent de proliférer, de pousser, etc. Mais ils ne sont pas nécessairement bio-inspirés. Effectivement, le plastique, ce n'est pas bio-inspiré. Le sérum de veau fœtal, ce n'est pas non plus très bio-inspiré. Donc, on essaye de se rapprocher de la réalité physiologique du tissu en regardant comment il est fait, en regardant sa structure, sa morphologie, sa réalité. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est en ça qu'ils sont bio-inspirés, c'est-à-dire qu'on essaye de se rapprocher de la réalité du tissu humain pour essayer de mieux le comprendre, voire de mieux le guérir.
Parce qu'on reverra, bien sûr, jusqu'à là, la méthode expérimentale s'appuie souvent sur un passage à l'animal, hein, et je dirais ensuite une application éventuelle à l'homme, mais il y a des différences parfois notables. Des fois, les choses marchent chez l'animal et pas chez l'homme, et vice-versa. Et donc, je dirais, le complément est peut-être la primauté dans quelques années, et on va y venir dans les détails, parce qu'on est quand même dans des impressions en trois dimensions, enfin, on verra ça tout à l'heure, va nous permettre, donc, comme vous le dites, de cultiver des cellules humaines et de pouvoir travailler dessus. C'est d'ailleurs ce que vous faites, je crois, en partie, Ségolène Meillac. Vous intéressez, votre objectif, il y a un organe quand même, on l'a dit tout à l'heure, qui vous passionne. Comment vous êtes tombée dans ce bain de jouvence?
Un peu par hasard, je pense, et je cherchais un laboratoire pour faire mon stage de Master 2. Et puis j'étais attirée par les grands instituts parisiens pour y faire mon stage.
Mais pour le cœur? Le hasard.
Oui, parce que j'ai contacté des laboratoires dans ces instituts et je suis tombée sur le laboratoire de Margaret Buckingham qui m'a beaucoup impressionnée et qui avait un sujet que je trouvais passionnant pour tracer les cellules du cœur. Et donc je suis tombée dans ces études-là sur le cœur.
Ce qui vous passionne, c'est quoi? C'est la formation du cœur, c'est de ces quatre cavités qui s'enfilent avec tous ces vaisseaux dans un ordre apparemment immuable, mais dans 1% des cas, voire 2%, il y a des anomalies hein, qui sont redoutables à la naissance, dès la naissance, parfois même avant. Donc cet organe, en dehors du hasard de la rencontre de votre labo d'accueil, vous passionne en tant que source de vie, on va dire, en tant que complexité de sa formation.
Donc une fois que j'étais plongée dans ces sujets, je me suis effectivement passionnée pour cet organe, le cœur, parce que je trouve que c'est un exemple de géométrie en trois dimensions.
Et que c'est typique trois dimensions. Là.
Voilà, et c'est assez fascinant d'essayer de comprendre quels sont les mécanismes biologiques qui contrôlent cette formation d'un organe en trois dimensions.
Parce que si j'ai bien compris, l'un et l'autre, vous êtes fascinés par l'organisation justement dans l'espace et en volume des cellules, des différents organes qui se mettent comme ça en place, comme s'ils avaient une trame qui était toute faite et qui en fait va être inspirée, on va dire, de leur propre évolution, pourquoi ces cellules se mettent plutôt comme ça, plutôt comme ci, et créer donc cette espèce de volume dans le cœur, tout le monde le voit bien, mais je crois que vous, Xavier Gidrol, vous travaillez sur d'autres organes, et en particulier sur le rein, je crois, ou sur la prostate, plus exactement.
Source de vie aussi.
Source de vie, alors voilà, la défendez votre prostate, enfin votre beefsteak. Pourquoi une source de vie? À cause du cancer?
Non, à cause du lait, de leur sécrétion et de ce qu'elles peuvent
Mais on peut se passer de prostate quand même, alors qu'on ne peut pas se passer de cœur.
Non, c'est vrai.
Sérieux, hein. Bon, donc, qu'est-ce qui vous intéresse justement dans cet organe précis? C'est quoi? C'est sa structure aussi volumétrique? C'est les glandes qui sont à l'intérieur? C'est ça que vous essayez
Donc nous, on est venu à la prostate plus pour le problème de cancer de la prostate, qui est un cancer majeur, comme vous le savez. Mais comprendre le cancer, c'est aussi comprendre le développement d'un organe. Et de façon assez surprenante, on connaît peu de choses sur le développement de l'organe prostatique, parce que c'est un organe qui se développe à la puberté. Les modèles animaux sont là, dans ce cas-là, peu représentatifs de la réalité de la prostate humaine. Donc pour mieux comprendre le cancer, nous, ça nous intéressait de comprendre la genèse de cet organe prostatique. On fait aussi un peu de développement du sein, hein. On s'intéresse plutôt aux cancers hormonodépendants. Et donc effectivement, c'est une structure particulière, c'est une balle de golf creuse, comme dans toutes les glandes sécrétrices, hein, la glande lacrymale, la glande sudoripare, le rein, le poumon aussi, même si c'est un peu différent. Donc il y a cette structure avec des balles de golf creuses reliées par des canalicules qui collectent toutes les sécrétions. Et donc c'est là l'organisation, comme vous l'évoquiez, en 3D, elle est complexe et très intéressante, et dans sa formation et dans son fonctionnement. Donc, comprendre cette structure 3D, ça passe nécessairement par le développement de modèles qui permettent de l'étudier. Comme je l'évoquais tout à l'heure, en deux dimensions sur du plastique, on ne pourra jamais comprendre comment se forment ces structures, comment se forment ces canalicules, et éventuellement comment arrive la cancérogénèse au cœur de ces structures, puisque c'est là qu'elle démarre.
Alors, quand on essaye d'étudier les différents organes dans lesquels nous sommes constitués, il y a effectivement, comme vous l'avez dit, il y a des tissus qui sont en 2D, hein, en deux dimensions, comme la peau, par exemple. Mm-hmm. Il y a des tubes qui sont creux, hein, comme les vaisseaux, tous les vaisseaux, mm-hmm. hein, qui sont des tubes creux, la trachée aussi, qui est comme ça, ou l'urètre, enfin, voilà, tous ces tubes. Et puis, il y a des organes qui sont creux, mais qui ne sont pas en tube. Comme la vessie ou comme la balle de ping-pong que vous évoquez, qui est pas tout à fait creuse, mais qui est un peu perforée. Et puis il y a des organes solides, qui est le rein. Et puis on va devoir étudier la vascularisation dans les organes et l'innervation. Est-ce que, en fin de compte, ce que vous souhaitez l'un et l'autre, ça serait de pouvoir voir se développer votre organe préféré, on va dire, in vitro? Ségolène.
Si on arrivait à le refaire in vitro, ça voudrait dire qu'effectivement, on a compris énormément de choses sur les processus qui permettent d'aboutir à ce résultat. Mais dans le domaine du cœur, on en est encore très loin.
Oui, dans tous d'ailleurs, non ?
Oui, dans tous les domaines, on en est très loin. Mais effectivement, le voir se développer in vitro, ça permet de comprendre les mécanismes intimes, tant physiques que génétiques, de la formation. Donc initialement, il y a un programme génétique. Vous l'évoquiez tout à l'heure, la cellule a une capacité remarquable eu égard à son programme génétique de s'auto-assembler. Et ça, c'est merveilleux à regarder, de voir qu'on jette littéralement une cellule dans un milieu de culture qui est une espèce de gelée. Hein.
Ouais,
il faut voir ça vraiment comme un œuf en gelée, hein.
Ouais.
Même si c'est plutôt la taille d'une graine de sésame. Mais c'est ce qu'on fait au départ. On met une cellule, on les jette un peu en vrac dans un tube avec de la gelée. Et elles ont une capacité, si elles sont souches notamment, à s'auto-organiser, qui est remarquable. Et voir ça jusqu'à l'organe. Aujourd'hui, on n'y est pas, comme le disait Ségolène, mais si on y arrive, c'est remarquable pour comprendre la genèse, la modéliser même mathématiquement, trouver tous les déterminants génétiques ou physiques de cette morphogenèse, sur quelle base elle s'est créée. Et puis, en comprenant sa genèse, on pourra mieux comprendre les pathologies, les éviter, voire les améliorer.
Alors, puisque vous avez évoqué justement le début du début, de la cellule souche à la cellule spécialisée, c'est vrai que on va peut-être revenir un petit peu pour les auditeurs sur ce thème-là, parce que ça fait pas tellement longtemps qu'on a découvert, en tous les cas, véritablement, les cellules souches embryonnaires, celles qui sont à l'origine de toutes les autres que vous traitez dans le cœur, dans le muscle, ou bien dans la prostate, etc. Et donc, peut-être juste ce rebond sur qu'est-ce que c'est qu'une cellule totipotente, pluripotente, comment est-ce qu'on a avancé nos connaissances depuis le prix Nobel de 2012 à Yamanaka, c'est quoi? Voilà, en un mot, qu'est-ce qui y va?
Xavier Ginrol. Donc, après je laisserai parler Ségolène aussi.
Mais oui, mais il y en aura pour tout le monde. donc la cellule se rapproche et se forme pour parler en volume.
Donc la totipotence, pour définir en premier lieu, c'est cellules souches. Donc embryonnaire, c'est la capacité, comme le nom l'indique, à donner tout l'ensemble d'un organisme, avec tous ses composants cellulaires, tous ses organes. Donc la totipotence dit la capacité à fabriquer toutes les cellules de l'organisme, donc chez l'humain, toutes les cellules humaines. On a à peu près 260 types cellulaires non pathogéniques, non pathogènes. Les cellules souches totipotentes peuvent fabriquer ces 260 types cellulaires. Donc ça, c'est essentiellement les cellules souches embryonnaires. Et puis, comme vous l'évoquez, Yamanaka a proposé les cellules souches induites, c'est-à-dire des fibroblastes, des cellules du derme, qui sont différenciées, spécialisées, qu'il a déprogrammées de façon génétique. Il leur a fait oublier ce qu'elles étaient, oublier leur spécialité, revenir à l'enfance un peu embryonnaire. Et à partir de... Donc on les appelle IPS pour cellules souches induites, à la pluripotence. Donc on a, le P voulait dire pluripotence, c'est-à-dire une capacité à donner plusieurs types cellulaires, mais pas l'ensemble des types cellulaires.
Oui, parce que la totipotence, quasiment, c'est nous.
Hein, c'est nous.
Voilà, on se refait un individu. La pluripotence, c'est de faire des grandes lignées cellulaires, des variées.
Voilà,
variées. Et donc IPS, effectivement, c'est Induced Pluripotency Cells. Ouais. Donc les cellules induites pour être pluripotentes. Est-ce que c'est pas merveilleux quand même de voir à partir d'une cellule cette espèce de grand carrefour qui va faire que de temps en temps on a une cellule qui va se mettre à battre et ça va être des cellules justement cardiaques, les vôtres, Ségolène.
Ce sont souvent effectivement les premières cellules qui se différencient à partir des
cellules. Vous avez vu déjà les
des cellules qui battent? Oui, oui, on a des
cultures cellules
aussi au laboratoire. Hein, c'est tout à fait fascinant.
Moi, je trouve que cette, enfin, c'est les premiers. On m'a montré, j'ai travaillé avec PCR à un moment donné, et on voyait quand ça commence à battre, c'est quand même magique, quoi.
Hein? Mais en même temps, ce qui est intéressant dans le contexte du cœur, c'est qu'il n'y a pas véritablement de cellules souches, en tout cas avec la définition traditionnelle de la cellule souche, qui est que c'est une cellule qui a une capacité d'auto-renouvellement et de conserver une capacité large de différenciation en plusieurs types cellulaires, que ce soit dans le développement du cœur ou même dans le cœur adulte. On n'a pas encore identifié véritablement une population cellulaire qui est capable de donner tous les types cellulaires qui contribuent au cœur, et dans lequel il n'y a pas seulement la cellule musculaire qui est la plus connue, mais il y a aussi d'autres types cellulaires, notamment qui vont faire les vaisseaux, comme les coronaires ou des cellules interstitielles. Et donc une particularité de la formation du cœur, c'est qu'en fait ce sont les cardiomyocytes, donc les cellules du muscle, qui sont différenciées parce qu'elles sont capables de battre, mais elles continuent à garder leur capacité de prolifération, de division. Et dans tous les modèles animaux qu'on a pu observer jusqu'à maintenant, notamment le modèle du poisson, dans lequel le cœur est capable de se régénérer, à la différence du cœur de mammifère, eh bien, cette capacité de régénération est liée à la capacité des cardiomyocytes de continuer à proliférer.
Quand vous dites capacité de se régénérer, c'est-à-dire il y a une brèche qui est faite, il se renouvelle ou il se renouvelle entièrement ?
Donc dans le cœur de poisson, on peut couper un petit morceau, ce qu'on appelle l'apex du cœur, on peut le couper.
La pointe
du cœur, voilà. On peut le couper et le poisson est capable de régénérer ça, de réparer ça et de refaire un tissu tout à fait normal pour reformer un cœur tout à fait fonctionnel.
Et ça, on a compris quel était le mécanisme, enfin le gène ou le mécanisme qui permettait ça?
Donc on a compris, on a identifié certaines voies de signalisation, mais on a encore beaucoup de choses à découvrir dans le domaine. Et surtout, ce qu'on a compris, c'est que ça passait pas par des cellules souches, ça passait par cette capacité des cardiomyocytes à redevenir un petit peu indifférenciés, mais en gardant leur identité cardiomyocyte. Donc ils sont pas capables de faire d'autres types cellulaires, ils ne font que des cardiomyocytes, et cette capacité de se diviser. Et on a compris aussi que chez les mammifères, le cœur de souris ou de l'humain, juste après la naissance, les cardiomyocytes dans ces cœurs perdent leur capacité à proliférer. Et on pense que c'est pour ça que les cœurs adultes de mammifères ne sont plus capables de régénérer.
C'est cette perte de cette capacité ou le gain de cette capacité qui est la clé de la compréhension de ces nouvelles organisations, de ces régénérations que vous évoquez. Alors, on en était donc sur la compréhension, mais ceci dit, le cœur lui-même, constitué de muscles, d'innervation, de vascularisation, provient aussi d'un système de cellules souches initiales, enfin on va plutôt dire dans ces cas-là de cellules initiales qui vont donner cet organe dans sa formation spatiale.
Mais ce sont des cellules souches très lointaines, c'est-à-dire que ça se passe à peu près au moment où Yamanaka les isole. À ce moment-là, oui, on a des cellules souches totipotentes, mais très rapidement, on a des cellules qu'on va appeler des cellules précurseurs et qui ont déjà un potentiel assez restreint pour donner soit du myocarde, soit de l'épicarde, soit de l'endocarde, par exemple.
Et est-ce qu'avec donc ces cellules qui sont induites, ce qu'on appelle donc les IPS, c'est-à-dire cette régénérescence des cellules, est-ce qu'on a la même ouverture, je dirais, éventail de formation cellulaire? Est-ce que c'est la même chose? On a changé, il a mis plutôt à l'époque 4 gènes pour rechanger complètement la dynamique de la cellule. Il y a d'autres essais qui sont faits, d'autres façons de présenter ça. Le principe est que, est-ce qu'on a la même capacité d'éventail des cellules complémentaires?
Donc il semble, oui, récemment il y a eu la capacité à partir d'IPS de refaire une souris entière, totale. Donc tous les types cellulaires chez la souris, fonctionnelles, vivantes, complètement heureuses, etc. Donc on devrait appeler les IPS aujourd'hui les ITS, en fait, puisqu'elles sont totipotentes et capables de renouer tout. Donc chez in vivo, chez la souris. Mais on s'aperçoit aussi avec des travaux récents in vitro sur les organoïdes, justement.
On va parler des organoïdes après, oui.
Ouais, que la plupart sont générés à partir d'IPS et qu'on arrive à un éventail assez large d'engagement dans différentes lignées cellulaires à partir d'IPS. Donc ouais, aujourd'hui, elles se ressemblent.
Il y a cet éventail, mais il faut aussi guider un peu pour pouvoir... si on veut vraiment obtenir, par exemple, tous les types cellulaires cardiaques, il faut reproduire un petit peu les signaux qui
alors justement, Ségolène Meyer, j'allais vous poser la question. Comment est-ce que vous faites pour guider une cellule qui, a priori, a l'air d'être aussi bien capable d'aller dans la direction neurone que dans la direction cardiaque, musculaire, par exemple? Comment est-ce qu'on a compris ce qui pouvait les guider vers telle ou telle spécialisation?
Donc, ce qu'on fait, c'est encore une fois le biomimétisme ou la bio-inspiration, c'est-à-dire qu'on regarde quelles sont les voies de signalisation qui sont importantes au cours du développement de l'embryon. Et on...
Quand vous dites les voies de signalisation pour nos auditeurs, c'est quoi concrètement?
Ce sont des gènes qui codent pour des facteurs qui vont être sécrétés et qui vont aller agir d'une cellule à une autre.
Donc, vous vous rendez compte en supprimant le gène, donc en supprimant le facteur, qu'à ce moment-là, il se passe rien, ou il se passe quelque chose de travers, ou ça se passe bien.
Voilà.
C'est comme ça, progressivement, qu'on avance pour comprendre tout ce qui va présider à cette différenciation.
C'est ça. Le développement nous montre que l'expression des gènes est extrêmement régulée à un endroit donné, à un temps donné et avec une dose donnée. On peut générer des signaux qui vont avoir des effets. Et pour les mettre en évidence, on utilise la stratégie que vous avez expliquée. On essaye de les supprimer à un moment donné, à un endroit donné, et on voit quelles conséquences ça a. Et petit à petit, on déroule le fil de ce développement embryonnaire.
Et alors ce déroulement du fil pour le cœur, vous avez l'impression que ça a progressé rapidement, c'est en train de progresser. Vous avez en main un modèle justement de compréhension de tout ce qui fait que le cœur se forme.
Donc, on a progressé beaucoup. Donc, si on revient au système IPS, on est capable effectivement de demander aux cellules IPS de se différencier, par exemple, en cardiomyocytes. Mais ce qu'on ne sait pas encore très bien faire, c'est comment développer ces cardiomyocytes qui doivent évoluer vers une structure plus mature dans le cœur adulte. Un cardiomyocyte embryonnaire n'est pas exactement pareil qu'un cardiomyocyte adulte. Donc, on sait très bien faire des cardiomyocytes embryonnaires et on ne sait pas très bien faire les cardiomyocytes adultes.
Alors déjà, sur le plan thérapeutique, là je ne parle pas de l'enfant, qui est plutôt votre domaine, si j'ai bien compris, de malformation, mais sur le plan thérapeutique, et on a reçu ici plusieurs chercheurs et médecins qui travaillent sur l'introduction de ces nouvelles cellules, de ces cardiomyocytes provenant de cellules souches, pour réparer des lésions chez l'adulte, en particulier du fonctionnement cardiaque. Mais vous êtes plutôt sur les anomalies de structure qui va faire ce qu'on appelle les cardiopathies congénitales.
Alors je m'intéresse aussi aux signaux qui vont permettre de réparer le cœur, encore une fois, en essayant de regarder ce qui se passe dans l'embryon, puisque le cœur embryonnaire grandit en taille énormément, les cardiomyocytes sont capables de proliférer. Donc si on arrive à comprendre quels sont les signaux qui sont importants pour réguler ces processus, peut-être un jour on pourra dire aux cardiomyocytes adultes de revenir à un état un peu embryonnaire et de se remettre à proliférer pour réparer le cœur in situ, sans greffe ou sans thérapie cellulaire. C'est une des voies de recherche qui est explorée par la communauté scientifique.
France Culture, Révolution médicale, René Friedman.
Pour rester sur votre domaine, Céline Meillac, vous avez donc toute une équipe qui travaille et vous êtes en lien, si j'ai bien compris, dans l'Institut Imagine, avec des pédiatres, des cardiopédiatres même. Quel est l'intérêt de ce lien? Comment est-ce que vous pourriez le caractériser?
Donc là, peut-être je peux dire un mot pour commencer de l'Institut Imagine, donc qui est opérationnel maintenant depuis 2 ans et qui a été fondé sur le principe de réunir en un même endroit des cliniciens et des chercheurs avec l'idée que ces interactions allaient accélérer les recherches. Donc dans le domaine qui m'intéresse, dans la cardiologie, j'ai monté un réseau qui permet de réunir tous les mois à la fois les chirurgiens qui opèrent les enfants atteints de malformations cardiaques, les cardiopédiatres qui font les diagnostics de ces malformations, les obstétriciens, les anatomopathologistes, mais aussi les chercheurs expérimentalistes et aussi les généticiens humains qui essayent de comprendre les causes génétiques de ces malformations. Et par le dialogue de chacune de nos expertises, on peut monter des nouveaux projets et aller beaucoup plus loin dans la compréhension qu'on a des malformations congénitales du cœur.
De votre côté, vous êtes dans votre institut, Xavier Gidrol, en lien aussi avec des équipes médicales ou un peu plus à distance?
On est un peu plus à distance physiquement, mais intellectuellement, on essaye d'être le plus proche possible, puisque c'est au quotidien quelque chose qui nous intéresse, notamment en oncologie. Hein, et donc, on est en contact avec des équipes d'urologues à Paris ou à Grenoble. Mais c'est vrai que, à la différence d'autres instituts comme Curie ou l'IGR à Paris, on n'a pas médecins et chercheurs associés autour du café, comme on dit souvent. Et c'est dommage parce que c'est là que ça marche le mieux.
Oui, c'est une nouvelle politique qui s'est instaurée, qui a été concrétisée avec plusieurs instituts, on va dire, qui ont été labellisés, dont celui d'Imagine, mais il y a effectivement une volonté, quel qu'il en soit, de lien. Parce que c'est vrai que souvent, le clinicien est soumis au drame qu'il voit. Il le transmet et souhaite une recherche efficace le plus possible. Et le chercheur, qui est dans son domaine, qui a besoin de calme aussi, mais est quand même en lien sous cette pression clinique. Hein. En tous les cas, c'est ce que j'ai connu dans la fécondation in vitro.
Ouais, complètement. Et je crois que c'est un lien très important parce que, effectivement, les chercheurs ont tendance à poser de nombreuses questions qui les intéressent, y compris sur des détails, ce qui pourrait paraître des détails physiques d'organisation, qui correspondent pas nécessairement à de vrais enjeux cliniques. Donc, c'est important pour nous de discuter avec les médecins pour qu'ils nous rappellent de temps en temps les vrais enjeux cliniques et ce qui reste des vraies questions à résoudre, même si les notes sont pas inutiles. Mais moi, j'aime beaucoup qu'on me remette dans le droit chemin, j'aime à dire, avec des vraies questions et des enjeux cliniques importants pour les patients.
Donc, est-ce qu'on pourrait dire aux jeunes qui nous écoutent que tout reste à faire et que c'est vraiment un domaine extraordinaire qui vous passionne? Absolument. Vous avez l'impression d'être dans la répétition. Allez. C'est un peu provocateur ce que je dis.
Non, absolument.
Évidemment, on n'est pas dans la répétition. Chaque jour, on a des sujets différents sur lesquels on travaille, même
alors,
des technologies différentes.
Tout récemment, là, c'est quoi? Quel est le sujet là, qui mobilise votre équipe?
Précis. Donc, on s'intéresse à. On a parlé du cœur qui se forme au début comme un tube, et ce tube va se replier et prendre une forme comme la lettre grecque gamma, faire une boucle. Et donc, un des problèmes qui nous intéresse en ce moment, c'est d'essayer de comprendre comment se forme cette boucle. Et on utilise à la fois des modèles animaux, mais aussi des modèles informatiques pour essayer de comprendre quels sont les processus qui sont importants pour ça.
De votre côté, Xavier Gidrol, quelle est la thématique là, qui est chaude dans votre équipe?
Quels sont les réseaux génétiques de l'organogénèse prostatique? C'est-à-dire quels sont les gènes clés qui font qu'une prostate va se former de cette façon et pas d'une autre. Donc on se sert de modèles pour ça, mais modèles cellulaires et modèles mathématiques.
Et quand vous dites qu'elle va se former de cette façon et pas d'une autre, ça veut dire quoi? Qu'il y a des anomalies de formation de la prostate?
Oui, complètement. La forme tumorale de quelques tissus que ce soit, prostate parmi les autres, c'est une anomalie de formation. Il y a des cancers chez l'enfant. Ségolène parlait tout à l'heure de la capacité des cardiomyocytes à proliférer. Cet équilibre entre prolifération et différenciation, c'est-à-dire multiplication et spécialisation, il est au cœur du développement, mais au cœur de nombreuses pathologies, notamment la pathologie cancéreuse. Effectivement, s'il n'y a pas une formation normale, il peut y avoir des défauts de formation et puis des pathologies. Et donc, c'est important de déterminer quels sont les gènes qui pourraient dysfonctionner par mutation, aboutir à des malformations ou des pathologies.
Très bien, mais merci pour cette introduction passionnée de votre travail. Nous allons prendre une petite pause pour nous préparer à écouter qu'est-ce que c'est qu'un organoïde, qu'est-ce que c'est que la troisième dimension, qu'est-ce que c'est que les banques d'organoïdes qui sont prévues. Enfin, tout un sujet, bien sûr, et on terminera par les possibilités d'interaction avec les fameux CRISPR-Cas9, qui sont peut-être une modélisation que vous utiliserez ou que vous êtes déjà en train d'utiliser, je ne sais pas. On va y revenir dans un instant, mais un petit peu de musique.
Mais c'est un problème de l'âge.
Révolution médicale, nous sommes donc sur France Culture, en partenariat avec le quotidien du médecin. Et nous sommes dans la semaine de la relève des savoirs, c'est-à-dire véritablement la recherche, et pour cette émission, la recherche plutôt médicale, sans oublier bien sûr la recherche fondamentale, qui est liée bien sûr à la recherche médicale, mais qui nous permet aujourd'hui de venir sur des éléments que vous avez beaucoup entendu parler, c'est-à-dire ces derniers temps, sur les cellules souches, sur la compréhension des mécanismes de développement de tel ou tel organe, et bien entendu, en filigrane, on voit bien que pourquoi est-ce que les cellules s'emballent et qu'elles deviennent cancéreuses, ça reste bien sûr l'objectif aussi de comprendre. D'un côté, les malformations congénitales, Ségolène Royal, Verbeau, je l'ai faite. Meillat qui est donc avec nous pour parler de son intérêt sur le cœur, et Xavier Gidrol, donc pour non seulement la prostate, mais aussi tous les mécanismes de mise en culture. Et j'aimerais que vous répondiez à la question qui est posée, qu'est-ce que c'est qu'un organoïde ?
Alors la façon la plus simple de répondre, c'est de dire un mini-organe dans un récipient. Donc on va essayer d'être plus précis. En fait, c'est vraiment faire pousser dans des gels des cellules. Donc ça ressemble, j'ai déjà pris, j'ai fait l'analogie tout à l'heure, vraiment un œuf en gelée, mais là ça serait plutôt une graine de sésame en gelée. La gelée étant le milieu de culture, donc sont des hydrogels synthétiques ou des fois naturels, dans lesquels on met des cellules. Et ces cellules, elles poussent, au lieu de pousser à plat, comme je l'évoquais tout à l'heure sur du plastique, elles poussent dans ce gel, elles prolifèrent, elles se multiplient. Et on s'est aperçu, mais récemment, hein, en gros au milieu des années 2000, enfin vers les années 2000, que pouvait se spécialiser, se différencier et commencer à ressembler à un organe embryonnaire, un embryon d'organe. Donc c'est ce qu'on appelle les organoïdes, ce sont des cellules...
Mais alors quoi, on va avoir des mini-cerveaux, des mini-reins en termes de fonctionnalité ?
Absolument. Donc on y est aujourd'hui. Depuis 2013, a été publié le premier mini-cerveau. Dans la revue Nature. Depuis, a été publié un mini foie, un mini intestin, un mini rein. Tous à partir d'IPS, jetés, comme je l'évoquais tout à l'heure, dans un gel.
Oui, alors c'est pas un organe tout petit, on va dire réduit, hein. C'est pas l'organe dessiné en entier. C'est la fonction, je dirais, l'essentiel des fonctions, où vous n'avez pas la formation, le rein, il n'est pas tout petit. En fer à cheval.
Si, ça commence à ressembler à un tout petit organe, mais c'est un organe embryonnaire. Donc il faut voir ça comme un embryon humain en train de se former. À l'intérieur de cet embryon, il y a des embryons d'organes. On a des embryons d'organes. Et on arrive à faire in vitro dans ces gels, pour le cerveau, des structures cérébrales qui s'apparentent plus à l'humain qu'un cerveau de souris, par exemple.
Déjà, on a le fonctionnement avec fonctionnement électrique de ces cellules, par exemple.
Alors, si on, pour les cardiomyocytes, par exemple, si on associe, si on fait un lien avec un fonctionnement électrique, c'est le cas. Pour les cellules neuronales, on n'en est pas là. Au niveau fonctionnel, encore pour le cerveau, on n'en est pas là. On a surtout observé des structures qui étaient des morphologies complètement physiologiques, qui ont l'air fonctionnelles, mais on n'a pas complètement pu vérifier la fonction. Ce qui a été fait aussi, mais peut-être qu'on y reviendra plus tard, ce sont des mutations qui miment des pathologies. Et on a remarqué que dans les organoïdes qui se formaient à partir de cellules qui possédaient cette mutation-là, on voyait une analogie avec la vraie pathologie. Il y a des fonctions qui sont plus présentes, notamment pour le foie. Quand on fait un foie, un mini-foie en 3D, un organoïde de foie, on a des métabolismes de médicaments qui ne se fait pas sur des cultures en 2D. Mais on n'en est pas encore, on en est au début, aux prémices de, c'est encore une fois, les premiers travaux, c'est 2013, on va dire 2010. On en est vraiment à l'âge de pierre de la culture d'organoïdes et d'organes, mais ça avance très vite et les potentialités sont énormes, notamment grâce aux cellules souches. Et donc, c'est la prochaine étape de la recherche dans ce domaine des cellules souches. C'est cette formation d'organoïdes qui intéresse de plus en plus d'équipes. Parce que les potentialités en termes d'application sont importantes.
On va venir sur justement le criblage et puis l'action des médicaments. Qu'est-ce que vous pensez, si vous avez suivi la demande des Anglais, de pouvoir cultiver l'embryon humain jusqu'au 14e jour, par rapport à la formation justement des organes et du cœur, entre autres, mais et d'autres organes ? Ah, on voit un petit blanc là quand même. Hein. Non mais, qu'est-ce qui va se passer sur, qu'est-ce que ça peut apporter que nos collègues anglais veuillent travailler, je dirais, sur l'humain à ce niveau-là ?
Une compréhension parfaite, on l'évoquait tout à l'heure, voir se développer un organe in vitro, ça peut être fascinant et très riche d'enseignements. Donc, voir se développer un embryon aussi. Il y a des dimensions éthiques que vous connaissez bien,
sur lesquelles je ne veux pas
intervenir aujourd'hui, mais sur le, au plan scientifique, ça devrait permettre d'apprendre des choses. Mais pas tout quand même, puisqu'il y a certains organes qui ne se développent pas dans l'embryon, qui se développent plus tard, la puberté, et cela, on n'y aura pas accès. D'où l'importance d'avoir des organoïdes aussi.
Bien sûr. Donc cette banque, ces banques d'organoïdes qui sont proposées, hein, je dirais, ici ou là, est-ce que ça va tomber dans le système privé de banques d'organoïdes mises à la disposition de chercheurs? Ou est-ce que vous avez peur de ça? Est-ce que c'est déjà le cas? Est-ce que pour l'instant ça reste tout à fait dans le domaine des instituts de recherche? Ou est-ce qu'on va voir se développer une espèce de marché privé de la recherche à partir de ça?
Donc aujourd'hui, c'est complètement académique et encore une fois, on en est aux prémices. Et ce qui a été fait, notamment dans les banques, à ma connaissance aujourd'hui, il n'y a qu'une banque d'organoïdes d'intestin fait en Europe. Hein, et c'est au travers d'un projet européen. Donc ça reste académique et public. L'objectif étant d'avoir différentes applications qu'on évoquera plus tard. Mais on ne peut pas ne pas être conscient qu'il peut effectivement y avoir des individus intéressés ou des structures intéressées par une privatisation.
En tous les cas, il y a beaucoup de chercheurs, hein, puisqu'il y a l'équipe de Curie avec Danijela Vinčević, qui aussi travaille sur cette nouvelle organisation des études scientifiques sur des systèmes donc organoïdes en volume et qui permettent de comprendre la clé de ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire pourquoi est-ce que des cellules ont une espèce de polarité, se mettent dans ce sens-là, se mettent dans l'autre sens, se mettent l'une sur l'autre pour constituer une partie de l'organe, et lorsqu'elles le font pas bien, ben ça va créer justement des anomalies. Alors il faut créer aussi le milieu, hein, dans lequel la structure dans lequel ces cellules vont se mettre dans l'espace. Qu'est-ce que vous utilisez? Des collagènes, des hydromatrix, des gels différents? Vous disiez ça représente une gelée là. Vous avez comme ça une structure qui n'est pas préformée. Vous préformez pas l'organe. Les cellules ne viennent pas se mettre sur une espèce de cytosquelette. C'est elle-même qui se le construit. Est-ce que c'est bien ça?
Donc, dans l'embryon, il y a effectivement des cellules qui vont sécréter ce qu'on appelle cette matrice extracellulaire, cette gelée extracellulaire. Mais il y a des modèles dans le domaine du cœur qui rejoignent les organoïdes, dans lesquels on peut prendre un cœur, le décelluliser, c'est-à-dire tuer toutes les cellules et retrouver cette matrice qui est liée à l'architecture de l'organe, et ensuite revenir avec des cellules souches, par exemple humaines, pour essayer de reconstruire...
De recoloniser.
Voilà, de recanaliser cette matrice et de voir jusqu'à quel point on peut aller dans la reconstruction d'un organe.
Est-ce que quelqu'un...
Sur le gel, les hydrogels, effectivement, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est très chaotique. J'évoquais le fait de jeter des cellules dans l'hydrogel, c'est stricto sensu. On n'est pas organisé, on est surtout fasciné de voir l'auto-assemblage des cellules. Aujourd'hui, on est un peu flemmard, on compte plus sur les cellules que sur nos capacités à les guider pour structurer un organe. Demain, l'enjeu, c'est celui-là, c'est-à-dire définir des hydrogels suffisamment contrôlés, même dans le temps, dynamiquement, pouvoir, avec de la lumière ou d'autres, ou des signalisations particulières, des récepteurs, attirer les cellules vers un endroit, leur donner une direction, un tropisme, faire des couches, etc. Organiser plus ça pour arriver, y compris avec de la bioimpression, pour arriver à un organe plus structuré. Aujourd'hui, on est surtout fasciné par l'auto-assemblage. Demain, on pourra peut-être faire un mélange d'auto-assemblage et de guidage de ces structures.
Alors,
en 3D.
Vous avez parlé, Xavier Vidal, de bioimpression. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est que cette imprimerie en trois dimensions et... Qu'est-ce qui se passe là, dans vos laboratoires, avec la troisième dimension?
Je pense que tous les auditeurs et tout le monde entend souvent parler d'impression 3D aujourd'hui, mais c'est d'impression 3D de plastique, de métaux. On est capable aujourd'hui d'imprimer des maisons en 3D, hein. Donc c'est en train de révolutionner l'industrie et la fabrication. On aura juste un plan dans un ordinateur, à partir de là, avec une imprimante dont la taille peut varier jusqu'à celle d'une maison, fabriquer tout ce qu'on veut. Donc aujourd'hui, ça marche, c'est relativement cher encore, mais pour le plastique et les métaux et certains matériaux. Puisqu'on est dans cette dynamique d'essayer de trouver de meilleurs modèles pour l'humain, certains chercheurs sont penchés sur la possibilité d'imprimer des cellules. Soit des cellules seules, mais ça marche pas très bien, elles sont pas viables. Les imprimantes, c'est assez délétère pour les cellules. Mais des cellules...
Quand vous dites imprimer des cellules seules, c'est quoi? C'est une photo de cellule?
Non, c'est carrément les cellules elles-mêmes qu'on fait passer dans une imprimante et qu'on va... mettre dans un hydrogel, justement, faire... vous savez, l'imprimantage et d'encre, en fait, sont des petites billes d'encre, des petites sphères d'encre qu'on envoie sur du papier. Mais on voudrait faire la même chose avec des cellules. C'est avoir une petite bille de cellules assemblées ensemble dans ce gel, ces gels à définir ou déjà définis. Et puis, à partir de là, construire carrément un édifice multicellulaire dont on donnerait la forme qu'on veut.
C'est un jeu de Lego cellulaire, quoi. Vous emboîtez vos petites sphères qui contiennent des cellules et ça donne la structure que vous souhaitez. C'est bien ça ?
C'est ce que je comprends du système.
Et donc, par exemple, Sigolène parlait tout à l'heure de cœur décellularisé, donc avec des détergents, mais d'un petit chargeant sur un cœur de souris, par exemple, on enlève toutes les cellules. On pourrait scanner ça pour en faire
un modèle digital,
informatique, et à partir de ce modèle-là, qui correspond à la réalité du tissu cardiaque, du cœur, réimprimer soit du cartilage, soit de la matrice, c'est-à-dire des protéines sans cellules, soit carrément demain, on espère, mais on en est loin aujourd'hui. Hein,
on pourrait créer des organes. Vous êtes un Frankenstein moderne.
Alors je vais me jeter à l'eau, je dis oui, je ne me demandais pas le temps, mais un jour ça
Victor.
Risque d'arriver. Mais ça va passer d'abord à moyen terme par les organoïdes. Donc faire des organoïdes qui pourront éventuellement être utilisés pour remplir une fonction organique défectueuse. Donc on pourrait injecter chez le patient des organoïdes...
qui viendraient remplacer l'organe malade,
voilà, l'organe
ou
malade,
le complémenter.
Absolument. Donc je pense plus à la faisabilité de ça à court terme que de l'impression d'organes stricto sensu.
Donc sur ces impressions donc en 3D, vous avez donné l'explication. Vous-même, pour le cœur, vous êtes... là-dessus aussi.
Donc ce que je trouve intéressant dans ce qu'a expliqué Xavier Gidrolle, c'est qu'effectivement on voit bien que dans ces cultures d'organoïdes, on a potentiellement différentes manières de construire un organe. Et peut-être que quand on va essayer de le faire in vitro, on va peut-être se dévier un peu de ce qui se passe in vivo, mais peu importe, si ça marche et si ça nous permet de créer des modèles, ça peut avoir des applications. Nous, on va utiliser aussi la modélisation informatique pour essayer de voir quelles sont les différentes stratégies possibles pour construire un organe. Mais in fine, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre quelle est la stratégie qui est vraiment utilisée par la biologie au cours du développement embryonnaire pour essayer de comprendre ensuite pourquoi, dans certains cas, ça fonctionne mal et ça conduit à des malformations.
Alors, une des grandes questions qui est posée dans cette compréhension, c'est y aura-t-il ou y a-t-il une possibilité de modifier le génome humain, pour parler de celui-ci, puisque ça fait quand même... Il n'y a pas très longtemps, je veux dire, on a découvert des outils qui permettent de couper, de remplacer des parties de l'ADN. Et donc, est-ce que dans les organoïdes que vous avez, est-ce qu'il y a une combinaison possible entre cet outil qui date de 2-3 ans et les recherches que vous faites?
Complètement. Et c'est l'intérêt aussi de ces organoïdes, notamment dans ce que j'évoquais, ces compensations d'organes malades par injection d'organoïdes qui pourraient être modifiés. Prenons par exemple la mucoviscidose. On a un canal ionique qui marche pas, qui transporte de l'eau, qui marche très mal dans le poumon ou dans les intestins. Mais on pourrait concevoir, puisqu'on sait faire des organoïdes d'intestin aujourd'hui, assez fonctionnels, ressemblant beaucoup à la structure de l'intestin lui-même, réparés par ces outils génétiques, CRISPR-Cas9 notamment, le canal ionique en question, et réimplanter chez le patient des organoïdes dans lesquels le canal fonctionnerait. Et comme on fait des organoïdes à partir de cellules souches, on pourrait imaginer et leur capacité d'auto-renouvellement et de différenciation qui puissent moins sur des territoires dans l'intestin réparer la fonction organique lésée. Donc c'est ces outils génétiques qui permettent soit de faire du gain de fonction, de la perte de fonction, sont intéressants, soit pour réparer, comme je viens d'évoquer, mais aussi pour comprendre les pathologies. Beaucoup de pathologies sont dues à une mutation d'un gène. On pourrait faire de meilleurs modèles d'études de ces pathologies avec les organismes où on aurait délété, muté le gène en question de façon volontaire et faire un organoïde qui correspond complètement à la pathologie. Donc là, on a un vrai modèle de la pathologie humain. C'est ce qu'on fait chez la souris aujourd'hui, mais ça reste des souris. Le meilleur modèle pour l'humain, c'est l'humain, même si on a encore besoin de beaucoup de travaux sur la souris. Il n'y a aucun doute là-dessus. On pourrait avoir des modèles humains d'organoïdes qui correspondraient à la pathologie elle-même avec la mutation du patient.
Est-ce que ce lien vous dit aussi, Ségolène Meillac, quelque chose? Ou est-ce que vous êtes plus centré sur l'utilisation de CRISPR-Cas9 dans votre domaine?
Donc pour nous, ces technologies qu'on appelle d'ingénierie génétique sont absolument fondamentales pour avoir des outils de recherche, parce qu'on a évoqué tout à l'heure que notre stratégie pour comprendre ce qui était important, c'était de l'enlever pour voir ce qui reste. Donc c'est absolument indispensable pour nous pour créer de nouveaux modèles animaux. Et puis aussi, potentiellement, pour pouvoir espérer un jour dire à ce cardiomyocyte adulte de redevenir un peu embryonnaire, on peut imaginer qu'il pourrait y avoir des technologies qui utilisent les aspects Cas9 CRISPR pour essayer de moduler la capacité de prolifération des cardiomyocytes. Et je voudrais rappeler aussi que l'Institut Pasteur avait été pionnier dans le développement de ces technologies d'ingénierie génétique, notamment pour le développement des gains de fonction.
C'est-à-dire?
Donc c'est à l'Institut Pasteur qu'a été fait le premier, ce qu'on appelle knock-in, c'est-à-dire de pouvoir insérer un marqueur dans le génome pour pouvoir tracer des populations de cellules.
Alors la possibilité en clinique humaine, hein, déjà de modifier, il y a des projets de modifier par exemple pour la drépanocytose ou pour la chorée de Huntington, on voudrait donc travailler sur les cellules somatiques, là on est sur un autre domaine, ou bien pour pouvoir modifier ou développer la résistance à certaines infections. Par exemple dans le cas des leucémies de l'enfant, on pourrait prendre les cellules de la moelle qui sont atteintes, et on pourrait les modifier donc in vitro et ensuite les replacer, les regreffer, ce qui éviterait bien sûr donc la maladie. Alors tout ça, donc toute cette engineering d'études et voire de pratiques qui dans les années qui viennent vont sûrement se mettre en tous les cas dans un programme de recherche bien entendu avec toujours risque contre risque, mais la question qui est posée, ce sont les cellules germinales et le fait, comme vous le savez, qu'il y a une équipe chinoise il y a 2 ans qui a travaillé sur des embryons humains qui a utilisé donc ce ciseau moléculaire sur une partie des cellules embryonnaires plutôt que des embryons, des cellules embryonnaires, d'embryons qui n'étaient pas destinés à pouvoir se développer, qui avaient des anomalies de développement. Néanmoins, je dirais, ça a quand même suscité un certain émoi dans les classes de réflexion et même chez les scientifiques, qui sont souvent les mêmes d'ailleurs. Question qui est posée aujourd'hui, sur laquelle pour une fois on peut peut-être réfléchir avant que d'être mis devant le fait accompli, c'est est-ce que on pourrait travailler sur les cellules germinales, c'est-à-dire envisager non plus le traitement par la voie génétique d'un patient ou d'une patiente, mais d'envisager donc pour la descendance par les modifications des cellules germinales qui toucheraient donc l'ensemble des cellules, et là on rentre quand même dans un domaine hasardeux, je vais dire. Quel est votre sentiment?
Je partage le fait que c'est un domaine qui me paraît hasardeux, puisque à quel point on va maîtriser les conséquences de ce changement dans la lignée germinale et comment ça va affecter la formation de l'organisme en général.
De votre côté, David Gendron?
Complètement, je partage l'émoi. Je trouve qu'il faudra vraiment réfléchir à ces modifications. Tant ces ciseaux moléculaires, sur les exemples que j'évoquais, c'est-à-dire sont des cellules souches adultes sur lesquelles on fait des organes organoïdes qui deviennent de meilleurs modèles pour la médecine personnalisée, voire l'implantation chez le malade. Il n'y a pas de, en première vue comme ça, même si ça demande de la réflexion, de problèmes éthiques majeurs, puisqu'elles vont, elles auront vocation à disparaître. En revanche, modifier génétiquement chez les souches embryonnaires, il y a des enjeux qui dépassent ça. Et qui suscite normalement un émoi. Enfin, moi, je ne suis pas enthousiaste à cette idée.
On peut rappeler aussi ce que François Jacob appelait le bricolage, c'est-à-dire que les mêmes gènes peuvent intervenir à différents moments pour différentes fonctions. Et donc, de vouloir corriger une fonction, par exemple, qui arrive à l'âge adulte, peut-être qu'en même temps, on va perturber le développement embryonnaire.
Mais il est certain que là, il y a un grand inconnu d'agencement hein, dans l'espace, c'est-à-dire des gènes, même si on enlève une partie et qu'on remplace, c'est plus les mêmes accointances, c'est plus les mêmes proximités. Et on l'a vu d'ailleurs, même dans les thérapeutiques géniques, celle qui a été faite pour les enfants bulles, par exemple, qu'on peut avoir effectivement, qu'on n'a pas bien compris où il faut insérer la nouvelle molécule, on peut avoir des complications. Donc c'est un autre problème, je dirais, qui mérite effectivement, et nous sommes tous ici en tout cas partisans d'une modération dans ce domaine. Par contre, dans l'utilisation, comme vous l'avez dit, Xavier Ginerol, sur les cellules, je dirais, somatiques, c'est-à-dire adultes, pour traiter la personne qui est en face de nous, ou bien pour comprendre, comme vous le faites, Ségolène Meillac, je veux dire, le système de création d'anomalies, hein, malheureusement, c'est un modèle. Autre thématique, celui du criblage pharmaceutique et de l'action, par le modèle que vous en évoquez, en suspension des organoïdes en particulier, de pouvoir tester de nouveaux médicaments. Est-ce que ça, c'est une voie qui vous semble fabuleuse?
Alors, fabuleuse, c'est peut-être un peu fort, mais prometteuse. En tout cas, l'industrie pharmaceutique est confrontée à un problème de modèle, ce qu'on appelle l'attrition des médicaments. Il faut tester énormément de molécules pour en avoir peu. Et peut-être une des raisons, il y en a beaucoup, on n'aura pas le temps de les évoquer ici, une des raisons, c'est l'inadéquation des modèles.
Donc, animaux, humains ou bien
à la fois peut-être sur le cancer de la souris, ça fait longtemps qu'on l'a soigné, par exemple. Donc et puis même humain sur les cellules 2D, on a évoqué les limitations. Elles poussent en 2D sur du plastique avec du sérum de veau fœtal, ça correspond pas à la réalité physiologique. Donc avoir des modèles humains qui reflètent mieux cette réalité physiologique, on peut imaginer, on peut se tromper aussi, mais en tout cas on peut imaginer que ça sera plus pertinent pour développer des médicaments, qu'il y aura moins d'échecs.
Vous voulez dire qu'on verra plus rapidement l'action sur ces organoïdes, donc qui représentent l'organe ciblé, l'action de tel ou tel médicament? Ça sera un modèle d'efficacité?
Plus que plus rapidement, plus efficacement, avec plus de pertinence. C'est-à-dire vraiment, effectivement, si on veut si j'ai un cancer, je cherche une molécule qui tue les cellules cancéreuses. Si je les ai sur du plastique en 2D, je les fais mourir. Et pour des signaux, elles n'ont pas les signaux en 3D d'environnement, etc., qui fait que ça va pas marcher en 3D dans la réalité. Donc si j'ai ce modèle-là, à ce moment-là, je peux chercher les molécules qui tuent les cellules tumorales vraiment dans une structure qui ressemble à la réalité de la tumeur.
Nous voilà, nous allons donc survoler hein, en plusieurs dimensions vos travaux respectifs, vos équipes. Vous représentez bien sûr des équipes avec vous et d'autres qui ne sont pas ici avec nous, mais dont on comprend bien qu'il y a dans le monde de nouvelles portes qui s'ouvrent. C'est donc tout le plaisir de cette séance de science hein, sur France Culture que de vous faire partager donc ces données. Cette émission a été préparée avec la collaboration de Catherine Donnet en deux ou trois dimensions, Dany Journeau en trois ou quatre dimensions, et avec Élise Le à la prise de son. Vous venez donc d'écouter cette émission en lien avec le quotidien du médecin. Vous pourrez retrouver les réponses qui ont été posées par les praticiens qui se sont adressés au quotidien du médecin sur le site lequotidiendumédecin.fr. Vous pouvez aussi réécouter cette émission sur le site internet de France Culture, franceculture.fr, et sur le site de notre partenaire, comme je viens de le dire. Demain, comme tous les jours à 16h, vous avez rendez-vous avec Culture Science. Et vous retrouverez Planète Terre de Sylvain Kahn et au programme Les Territoires sans dessus-dessous.